nous allons pouvoir inaugurer cette première table ronde des Imaginales, dont l'intitulé est « La fantaisie, c'est magique ». Alors, avec plusieurs auteurs, donc tout au bout, non pas des frères jumeaux, mais vous avez le traducteur que nous connaissons tous, Lionel Davous, et à côté de lui, Jim Hines, donc, qui nous vient des États-Unis, qui s'est fait connaître en France d'abord pour deux volumes qui s'intitulent « Le Graal du Gobelin » et « La gloire du Gobelin ». Et tout récemment, il connaît beaucoup de succès avec les deux premiers volumes d'une nouvelle série qui s'intitule « Magie ex libris, le bibliomancien et lecteur né ». À côté de lui, Jean-Laurent Del Socorro, qui avait fait une entrée fracassante, on peut le dire, sur la scène littéraire il y a 3 ans maintenant à peu près, 3 ans, avec « Royaume de vent et de colère ». Et qui vient de sortir tout récemment, il y a quoi, il y a 2 mois à peu près, un mois, Boudica. À côté de lui, une auteure qui nous vient du Québec, donc Ariane Gélinas, qui nous allons parler d'un de ses livres qui s'appelle Les cendres de Sedna. Mais j'ai vu que, mais alors là, j'ai pas réussi à l'avoir à temps. J'ai vu qu'avant, vous avez publié un cycle qui s'intitule Les villages assoupis. En 3 volumes, c'est bien ça, c'est une trilogie. Mais j'ai cru comprendre que ça sortait, j'avais un peu moins de regrets, sauf celui de ne pas vous lire. Mais à côté de ça, j'ai cru comprendre que c'était plutôt du fantastique, donc un peu en dehors du thème d'aujourd'hui.
Prenez-le. Oui, j'écris surtout du fantastique. Et puis, moi, je m'intéresse à la mythologie, hein, comme on peut le voir dans le dernier. Mais la trilogie en question dont vous parlez, elle s'intéresse aux communautés disparues du Québec, alors les villages fantômes.
D'accord. Bon, donc... Vous aurez quand même une petite idée. Je pense que vos bouquins doivent être à la librairie. Et à côté de moi, Olivier Silig, qui fait partie de la délégation helvétique, le pays à l'honneur cette année aux Imaginales. Alors, pour, entre autres, un livre dont il a soigneusement évité de me dire comment ça se prononçait. Il m'a dit qu'il attendait de voir comment je me débrouillais. Donc, il s'appelle Björn. Et il a la gentillesse de ne pas me reprendre. Voilà. Donc, avec ces 4 auteurs, nous allons parler de la magie de la fantaisie, parce que ce titre, à mon avis, peut s'entendre de plusieurs manières différentes. Mais donc, la première, et Ariane commençait ma première question pour vous quatre, et Ariane commençait à l'aborder, c'est d'abord, est-ce que vous vous considérez, vous qui êtes à cette table ronde, comme des auteurs de fantaisie?
J'avais déjà un peu commencé à répondre, alors je vais enchaîner là-dessus. Généralement, de point de vue personnel, j'ai plus tendance à me présenter comme une auteure de fantastique. Mais étant donné que mon approche est assez inclassable dans les genres et que j'adore les mythes, comme on le sent dans mon dernier roman, eh bien, à ce moment-là, je trouve ça plus difficile de catégoriser la démarche. J'aime beaucoup, comme lectrice aussi, fréquenter les territoires de la fantaisie. Mais mon approche des genres, elle est très diversifiée. J'aime également la science-fiction. Ça se retrouve dans les influences, le polar, et puis tout ça, en fait, on a compris que tout ce qui est genre. Alors, je dirais peut-être plus fantastique spontanément, mais avec beaucoup d'affection pour l'imaginaire. Et d'ailleurs, un autre de mes chapeaux, c'est d'être chroniqueuse de littérature de l'imaginaire. Ça inclut bien sûr la fantasy.
Alors moi, je suis toujours en bordure de genre, aussi dans la vie, je crois. J'ai fait de la science-fiction un tout petit peu sans le savoir. À mon avis, j'ai jamais fait de fantasy, j'ai fait un peu de fantastique et un peu de tout ça vient se mêler dans des romans qui sont tout à fait d'un autre genre. J'ai écrit 2 romans qui sont historiques, mais dans un, il y a un peu de réalisme magique qui arrive. C'est un roman qui se passe en 1492 qui s'appelle La Cire perdue, qui est l'histoire d'un garçon et un vieil homme qui promènent un hermaphrodite dans un bocal à travers l'Europe. Et là, par moments, il intervient des choses qui ne sont plus du rationnel, mais c'est un accident. Mais j'aime assez de suivre cette piste qui est de faire les choses par accident, comme la vie.
Alors, si vous voulez, on en reparlera, parce que j'avoue à ma grande honte devant l'assistance ici que ce roman-là m'avait échappé.
Yes. I write almost entirely fantasy. I've done 50 short stories that are all fantasy. 12 books in the U.S., all fantasy. I love it. I love the magic. I love the wonder, the swords, the dragons, the urban fantasy. Even some of the cliche elements are so much fun to play with and to turn them upside down and explore. And so after saying all of that, I am currently finishing up my first science fiction novel and discovering that science fiction is hard because you have to know science. So I will probably be going back to fantasy after this. But yes, I've loved this genre my whole life. I grew up science fiction and fantasy. I was the little nerdy kid running around with the toy lightsaber. And the only difference now is that I am older and I can afford better toy lightsabers.
Oui, j'écris presque exclusivement de la fantasy. J'ai écrit 50 nouvelles, c'est toutes de la fantasy. J'ai écrit 12 livres publiés aux États-Unis, c'est tous de la fantasy. J'adore la fantasy, j'aime la magie, le merveilleux, les épées, les dragons, l'aspect urbain de la fantasy parfois. Même les clichés, je les aime, c'est vraiment très amusant de jouer avec, de les inverser, de les explorer, etc. Et après vous avoir dit tout ça, je viens de terminer mon premier livre de science-fiction et je viens de me rendre compte que la science-fiction, c'est dur parce qu'il faut connaître la science. Alors je pense qu'après avoir fait ça, je vais retourner à la fantasy. Mais voilà, j'aime la fantasy, j'ai aimé ça toute ma vie, j'ai grandi avec, j'ai été le petit gamin un peu à lunettes, un peu geek qui se baladait avec des sabres laser en plastique. La seule différence, c'est que maintenant je suis plus vieux et que je peux me payer de meilleurs sabres laser.
Alors oui, sur l'aspect, oui, je suis auteur de fantasy, mais je le revendique. Alors paradoxalement, mes romans sont davantage des romans historiques. Royaume de vent et de colère a un réalisme magique, indubitable, mais qui reste une portion congrue du récit. Dans Boudica, on est quasiment dans le récit, le récit historique. Pourtant, je le revendique parce que cette part de merveilleux, de réalisme magique, je pense, ça fait aussi partie du spectre de la fantasy. On peut avoir ce qu'on appelle, je crois, la big commercial fantasy avec tous les clichés, la quête, la magie, les objets magiques, mais la fantasy historique, ça aussi fait partie aussi de cette grande famille de l'imaginaire, fantasy.
Alors, merci. La fantasy, c'est magique. Mais ce que je trouve, moi, magique dans la fantasy aussi, c'est de voir comment vous avez réussi à créer des univers qui sont excessivement différents les uns des autres. Jean-Laurence Del Socorro, vous venez de l'aborder un petit peu en disant que vous, c'était plutôt historique. Alors, on va peut-être rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail de ces caractéristiques de vos romans. Alors, honneur aux dames, puisqu'on a commencé avec Ariane, qui, en plus de ça, a tout de suite déclaré qu'elle écrivait plutôt du fantastique. Donc, justement, continuons. Moi, je me suis demandé si, quelque part, on ne pouvait pas qualifier Les Cendres de Sedna en quelque sorte de roman de fantasy urbaine rurale.
Oui. Après avoir écrit le livre, c'est souvent comme ça, là, puisque c'est un livre qui est en plusieurs segments. Il y a trois parties. La première partie appartient plus concrètement au fantastique, parce qu'on a un personnage qui est confronté à Sedna, qui est la déesse inuit des animaux marins. Et puis tout le roman fonctionne à partir de ce mythe inuit-là, qui est une source d'inspiration primordiale, puis qui rejoint, je m'en aperçois bien, les touches fantaisistes du roman. Parce qu'avec les deux et troisième partie, on se retrouve dans un univers où, par exemple, les hommes-oiseaux sont tout à fait légitimes et leur existence, elle est certifiée par tous ceux qui vont dans cet arrière-pays québécois-là, qui est visité avec ses touches d'amérindianité également, qui viennent nourrir ces mythes-là, le roman de très près. Là.
Et en précisant qu'on est vraiment au fin fond du trou du monde du Québec, oui, hein, parce que oui. dans l'archipel de Tête à la Baleine, c'est pas courant. Hein.
Oui, c'est vraiment... Il y a un aspect, du moins, dans le deux tiers du roman et de la fantaisie du terroir. Et puis, voilà. je m'en aperçois avec un peu de recul. Et en plus, déjà, au Québec, je dois toujours prendre, à chaque fois que je parle du roman, je dois prendre un bon 5-10 minutes pour expliquer où est situé le roman au Québécois. Alors... lorsqu'on s'éloigne encore plus de ces lieux-là, qui sont des lieux extrêmement retirés, l'archipel de Tête à la Baleine, qu'on vient de mentionner, il n'y a même pas de route qui se rend là. Encore aujourd'hui, en 2017, au Québec, il faut y aller avec un cargo qui apporte des provisions aux gens qui restent dans l'archipel, qui, en plus, vivent encore selon des méthodes ancestrales avec ce qu'on appelle la transhumance. L'été, ils vont vivre dans les îles, l'hiver, ils reviennent sur la côte. Alors, juste ça, ça a presque quelque chose de mythique comme mode de vie. Alors, ça le nourrit beaucoup, les cendres de Senna, c'est indéniable.
Olivier Sillig. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez écrit de la science-fiction sans y toucher. Alors, je suis désolé, on va légèrement spoiler quand même l'intrigue de Björd, quelque part. Parce que moi, au début, je l'ai lu vraiment comme un roman de fantasy. On est perdu dans ses limbes. Et je dirais même de la fantasy très noire dans ce cas-là.
Oui, c'est un roman extrêmement noir. Que je l'ai écrit il y a longtemps, hein, qui était un peu une façon pour moi de m'interroger comment des êtres humains entre 18 et 20 ans, de sexe mâle probablement, sont capables de devenir des têtes, des phalangistes, des massacreurs, etc. C'est un roman qui est un peu sur la constitution de ces groupes de massacreurs, dans un monde où tout le monde se massacre et où sinon tout n'est que boue et eau. Et après l'avoir écrit, je me suis rendu compte que c'était un roman qui avait une autre couche, qui était très autobiographique, qui racontait probablement un désarroi qui m'habitait à l'époque et qui était très grand. Donc je pense que c'est un roman qui marche parce qu'il y a une thématique de libérer, et puis il y a des choses que je n'ai pas maîtrisées. Et c'est de la science-fiction puisque ça se passe dans longtemps, après une grande catastrophe.
C'est du moins ce qu'on croit deviner.
Oui, c'est suggéré.
C'est suggéré, mais en même temps, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce que vous décrivez cet univers absolument hallucinant de boue à perte de vue, et ces îles plus artificielles que les gens ancrent autour de rochers pour essayer d'avoir un petit peu de terrain.
Oui, à part ça, juste... je me suis tout à l'heure, quelqu'un parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis demandé quand c'est que la Deuxième Guerre mondiale s'est appelée Deuxième Guerre mondiale. En fait, quand on arrive dans le monde, on ne sait pas où on vit, dans quelle période on vit et comment on est arrivé là. Donc, c'est la même chose. Mon roman démarre à un moment où personne ne sait pourquoi le monde est comme il est dans ce roman-là. Voilà. C'est un roman réaliste, si on veut.
Mais en même temps, qui est... très prenant, parce que en lisant votre roman, j'ai un peu pensé au film Le désert des Tartares, c'est-à-dire qu'on est au milieu de nulle part et il y a des gens qui attendent et qui se demandent ce qui va se passer, qui ne savent pas pourquoi.
Alors j'ai peu de pères en littérature, mais j'avais lu Le désert des Tartares une dizaine d'années avant, et c'est un roman que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait beaucoup impressionné, et je ne renie vraiment pas cette analogie.
Jim Hines, vous qui revendiquez avec beaucoup de véhémence votre statut d'auteur de fantasy pure. Alors peut-être on peut déjà dire un mot, parce qu'on a beaucoup, on va beaucoup parler de la série du Bibliomancien, mais on peut peut-être dire d'abord un mot de vos romans sur Jig, le gobelin. Que j'ai trouvé aussi très amusant, et qui là sont de la fantaisie pure, mais d'un point de vue qui est complètement différent de celui qu'on a d'habitude.
Thank you. Jig the Goblin came about partly because I've played Dungeons and Dragons all my life. I've been reading these stories all my life. You know, you watch Lord of the Rings, and it's that. Oh no, I can't find the English word. It's that perfect quest adventure. You have the heroes, and they're descending through the caves, and the goblins swarm down, and the heroes kill them all. And I started thinking, well, if you're a goblin, this is your home. You know, you're basically hanging out in your apartment, and these humans and dwarves come stomping through, and everybody goes down because, hey, you're in our backyard. Dude, what's going on here? And they start killing you all. And if you're a goblin, you've got to get used to this after a while. You know, this is your life. This is your role in the ecosystem, is to be killed by humans. And so I wrote three books from the perspective, not just of a goblin, but the goblin runt, the underdog among the underdogs. And he's not strong, and he's not brave, and he's not any of the things that we usually think of a hero as being. But he's smart. And he has a pet spider who can set things on fire. And between those two things, he manages to survive for three books. Hates every minute of it. But it was so much fun just turning the quest upside down, turning the assumptions upside down, and just seeing how is Jig going to survive all of this.
Déjà, merci beaucoup. Le gobelin Jig est apparu et né en partie parce que, en gros, j'ai joué à Donjons et Dragons à peu près toute ma vie. J'ai lu les romans, les histoires qui étaient relatives à ça. Et jusqu'à quand vous regardez les adaptations cinématographiques, par exemple, du Seigneur des Anneaux, vous avez cette aventure, cette quête parfaite, archétypale, où les héros descendent dans les cavernes, il y a des gobelins qui débarquent et ils désinguent tout le monde. Et là, je me suis dit, mais si vous êtes un gobelin, en fait, là, c'est chez vous. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes en train de traîner dans votre appartement, tranquille, et d'un seul coup, il y a les nains, les humains et tout qui débarquent, et là, tout part en sucette. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire ? On est tranquille chez soi, peut-être on traîne dans son arrière-cour, et d'un seul coup, il y a les humains, les nains qui débarquent pour tuer tout le monde. Et je me suis dit, si vous êtes un gobelin, au bout d'un moment, vous finissez par en prendre l'habitude. C'est votre vie, c'est votre rôle dans l'écosystème. Alors, j'ai voulu écrire, en fait, donc, du coup, trois livres, mais qui ne parlaient pas simplement des gobelins, mais vraiment, en plus, du moins estimé, de vraiment celui qui est en plus le plus bas de l'échelle sociale, c'est-à-dire vraiment, quelque part, la lie de la lie. Et ce gobelin-là, il n'a aucune des caractéristiques qu'un héros... auquel on s'attend de chez trouver un héros. Il n'est pas brave, il n'est pas fort, mais par contre, il est intelligent, et il a une araignée apprivoisée qui lui permet d'enflammer des trucs. Et donc, avec ces deux atouts, il réussit à survivre pendant trois livres. Il déteste absolument sa vie à chaque instant, mais bon sang, qu'est-ce que ça a été drôle et amusant de prendre l'archétype de la quête et de l'inverser, de prendre les partis pris, de les inverser, et de me demander, bon sang, mais comment est-ce que Jig va faire pour survivre à tout ça ?
Voilà, ça c'est aussi la magie de la fantaisie, de pouvoir renverser complètement les codes. Jean-Laurent Del Socorro, vous avec Boudica, qui est votre roman le plus récent, on reviendra sur les autres après, ainsi que pour G-Minds, etc., sur l'aspect magique. Mais ce qui m'a frappé dans la lecture de Boudica, qui est un roman ancré vraiment dans l'histoire, hein, puisque c'est une grande reine qui a résisté à la conquête romaine de la Grande-Bretagne. Là, il n'y a pas de magie, véritablement.
Oui, c'est en partie vrai. En fait, moi, je suis le feignant de la table, parce que je dis que je suis auteur de fantasy, mais en fait, l'univers, c'est le nôtre, donc je ne crée pas l'univers. Je ne crée pas l'histoire parce que c'est les vrais événements historiques. Par contre, il n'y a pas de magie, oui. Mais ce qui est intéressant, je crois que c'est le même propos en fait que d'ailleurs que Jean-Philippe Jaworski dans son cycle celtique en ce moment. La magie existe aux yeux des personnages du roman. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est aussi intéressant à traiter. C'est se dire... peut-être que c'est magique parce qu'ils font des choses quand même qui, dans mon récit, qui pour eux sont des actes de magie. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Ça peut être des influences dans la suite du roman, mais en soi, effectivement, vu de l'extérieur, est-ce que c'est juste un culte ? Est-ce que c'est juste un... Mais c'est aussi intéressant de se dire que ben, peut-être que c'est pas juste un culte. Peut-être que, en fait, il y a une portion de choses qui ont des effets réellement magiques à travers leurs croyances, à travers leur foi, à travers les rituels qu'ils font, à travers le récit. C'est tout l'aspect ambigu que j'ai voulu mettre dans dans Boudica. Est-ce que c'est juste de l'historique ou pas que ? Il y a un aspect onirique qui est très présent. Il y a comme des rêves qui sont entre guillemets prémonitoires. Voilà. Donc c'est une ambiguïté. C'est vrai que là, on touche un peu, comme R.N. Gilles, on touche peut-être plus au fantastique par moment.
Voilà, mais justement, c'est ça qui était très intéressant, vous venez de le dire. C'est en particulier, il y a tout un aspect des rêves qui sont ensuite interprétés par Boudica, donc en particulier quand elle rêve de l'aigle romaine, etc. Et c'est vrai que là, on est dans toute cette ambiguïté. Est-ce que dans d'autres cultures, elle n'aurait pas interprété ça de manière différente ? Et en fait, c'est ça qui l'a conduit à faire ce qu'elle fait.
Oui, tout à fait. Et même, je serais tenté de dire, oui, et je pense aussi que le moment de la vie où elle a le rêve est important. Je pense qu'elle aurait fait le rêve de l'aigle, notamment plus tard, elle ne l'aurait pas interprété de la même façon. Donc il y a à la fois le cycle de l'histoire, à la fois il y a le personnage qui interprète, et même il y a le lecteur qui interprète. Parce que je pense qu'on n'a pas la même vision, je pense, de certains rêves au moment où on lit le rêve, et à la fin du récit. Et pour rebondir aussi sur un aspect, j'ai une façon d'écrire qui est un peu particulière. Le récit, le livre en lui-même est toujours composé d'un roman et d'une nouvelle qui sont liés. Il y a toujours un lien, même si dans Boudica, la nouvelle nous projette dans un autre pays des années bien plus tard. Et pourtant, là, on voit que la magie, peut-être, en fait, elle persiste. Il y a un effet de magie qui est né peut-être dans Boudica et qui apparaît finalement dans la nouvelle derrière. Donc, il y a quelque chose toujours un peu de... Est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui existe ?
D'accord. Alors que dans les cendres de Sedna, la magie, elle existe vraiment. Sedna, elle a des pouvoirs. Mais ce que vous pourriez peut-être développer, c'est la manière dont sont utilisés ces pouvoirs, parce qu'ensuite, c'est transformé quelque part de manière scientifique à travers le personnage du père.
Oui, et puis ce que tu viens de raconter sur l'oniris, ça m'interpelle beaucoup par rapport au centre de Sedna. Je pourrais peut-être un petit peu raconter les grandes lignes du mythe, parce qu'il y a un lien aussi avec le rêve, et puis le rêve est extrêmement important pour comprendre comment Sedna, elle en est arrivée là, et puis à devenir une sorte de créature marine. Alors au départ, dans ce mythe-là, qui est un mythe inuit, de l'extrême nord du Québec. Alors, Sedna, elle avait été offerte en mariage contre son gré à un homme oiseau. Et puis, elle a appelé son père en rêve pour lui dire qu'elle était malheureuse et elle l'a imploré de dire « Viens me sauver » à travers ces songes oniriques-là qui étaient répétés. Son père est parti avec sa barque pour venir en aide à sa fille. Il l'a rejoint dans le nord auprès des hommes oiseaux. Et il l'a ramené sur le coup et il a réussi à avoir sa fille pendant la nuit. Mais très vite, les hommes oiseaux se sont rendus compte que Sedna s'était échappée. Et puis, on poursuivit le père dans la barque et puis tout ça. Et lui, il a eu tellement peur, le père de Sedna, qui a dit à sa fille, « Non, retourne là-bas, je ne veux plus me mêler de ça. » Et il l'a poussée par-dessus bord de la barque, ce qui est franchement pas très empathique. Et elle a supplié en disant, « Non, reprends-moi à bord. » Et il a eu tellement peur. Des fois, dans le mythe, on dit qu'il était dans un état second, qu'il aurait coupé les bras de sa fille ou les mains. Selon le mythe inuit, les bras et les mains tombant dans les eaux, ça leur aurait donné naissance à tous les animaux marins. Et ça, c'est le point de départ du roman Animaux marins, que ce soit baleine, phoque ou morse et tout ça. Et Sedna, forcément, on la comprend, elle est très en colère contre son père. On le serait à moins. Et c'est un des points de départ des cendres de Sedna. Et son père est devenu une espèce de scientifique qui a un rapport particulier avec les baleines. Elle en a un, elle aussi, et elle sévit dans le Saint-Laurent, dans les mers du Nord, en étant réellement la maîtresse des animaux marins, qui, oui, a des pouvoirs magiques en étant partout, en étant capable de faire des naufrages, de déclencher des tempêtes.
Et en même temps, il y a Nathalie, le père, est devenu un espèce de scientifique fou qui utilise les pouvoir et il les transforme. On ne va pas déflorer, mais je vous invite tous à lire. Il y a des scènes sur la manière de l'utilisation des baleines qui sont absolument extraordinaires et uniques. Et à un moment, vous avez une image quand on vous décrit la nécropole des baleines. Vous restez là, vous êtes bouche bée.
Merci beaucoup.
C'est très, très beau. Par contre, Olivier Sillig d'Ambjörd, il n'y a pas du tout de magie. La magie, c'est la connaissance. C'est en cela que Björd lui-même est un magicien. C'est qu'il sait lire une carte et une boussole. Donc là, la magie, en fait, c'est le savoir.
Je n'avais pas du tout pensé à ça. Je ne sais pas quoi répondre. J'ai un livre que je vois pour la première fois aujourd'hui. Ça s'appelle « Je dis tu à tous ceux que j'aime ». Bon, c'est une édition poche, j'ai connu l'autre. C'est un livre de fantastique. Je vous résume en deux mots. C'est un monsieur qui doit apporter un élément de radiateur à une fabrique dans une ville. On ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas quand ça se passe. Et il n'y arrive jamais. Ce n'est pas très excitant. Mais il rencontre un musicien de rue. C'est la relation qui se noue avec ce musicien de rue. Et en quoi c'est un roman fantastique? C'est une ville qui rétrécit au fur et à mesure du roman et qui laisse un peu perplexe à la fin, je crois.
Bon, donc nous allons le découvrir, parce que j'avoue que là aussi, comme son auteur, je viens de le voir. Donc, Jim Hines, on va revenir maintenant à vous, parce que puisqu'on parle de magie, là par contre, dans Magie ex libris, le titre déjà l'annonce. On est dans la magie et le pouvoir, et c'est le pouvoir magique par excellence, celui que nous tous qui sommes des lecteurs de science-fiction et de fantaisie acharnée, c'est le pouvoir qu'on rêverait tous d'avoir.
It's my dream too, yes. The central idea in the Magic Ex Libris books is that as more and more of us read these books and imagine what's happening in the stories, all of that belief and imagination, it creates a kind of magic that certain people can tap into. Basically, you reach into the book and you can pull things out, as long as it fits through the book. You can't pull out an X-Wing. But I loved that idea that, you know, to make books literally magic. And yeah, some of it was pure wish fulfillment. It was, man, I wish I could do this. I want the lightsaber and the blaster and the healing magic and the magic rings and the invisibility cloak. And I got to write 4 books just playing. Imagining all of the different things you could do if this was real, indulging my inner geek. And it also gave me a chance to, in some ways, it's like a 4-book long love letter to science fiction and fantasy. I get to mention so many of my favorite books, so many of my favorite authors, all of these other people who brought magic into my life. That almost sounded deep. it was a wonderful idea to be able to play with and explore and just really get into, yes, books are magical, both in the ways that we're used to and in this series, quite literally.
Oui, c'est en grande partie effectivement mon rêve. Alors en fait, l'idée centrale de Magie Ex Libris, c'est à mesure que nous sommes de plus en plus nombreux à lire des livres et donc à imaginer ce qui s'y passe, imaginer l'histoire, toute cette croyance, toute cette imagination devient une forme de magie dans laquelle certaines personnes peuvent puiser. En fait, dans les faits, ça veut dire qu'on peut véritablement puiser dans le livre à travers l'objet physique et en retirer tout ce qu'on veut, tant que ça passe à travers le cadre du livre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas plonger la main et sortir un chasseur X-Wing de Star Wars, ça ne marche pas. Je suis tombé amoureux de cette idée-là, où en fait, les livres devenaient magiques au sens véritablement propre du terme. Et j'avoue qu'en partie, c'était simplement l'accomplissement d'un fantasme. Parce que c'est vrai, je me disais, j'aimerais vraiment tellement pouvoir faire ça, pouvoir sortir tout ce dont je rêve, les sabres laser, les blasters, les anneaux magiques, les capes d'invisibilité, etc. Et donc, j'ai eu la chance d'écrire 4 livres avec cette histoire et de pouvoir jouer avec tous ces différents jouets sur lesquels j'ai lu et véritablement, j'avoue, de faire plaisir à mon geek intérieur. C'était pour moi un peu l'occasion finalement d'écrire 4 livres, donc une lettre d'amour à la science-fiction, à la fantasy, qui fait 4 livres de long. J'ai eu la possibilité de mentionner tellement de mes livres favoris, tellement de mes auteurs favoris, qui ont véritablement investi ma vie de leur magie. Ça a l'air presque profond ce que je raconte. C'était une idée absolument merveilleuse avec laquelle j'ai pu explorer. Et l'idée était véritablement de dire que les livres sont magiques, à la fois de la manière dont on est habitué, et puis là, dans le cadre de cette série, vraiment au sens propre.
Mais c'est vrai que Magie Ex Libris, c'est extrêmement profond, comme ce que vous venez de dire, Jim Hines. D'ailleurs, grâce à ça, nous apprenons en particulier pourquoi il y a cette floraison de créatures surnaturelles de tout type qui apparaissent dans le monde sans qu'on le suspecte. Peut-être pourriez-vous nous en dire un petit peu plus, parce que ça aussi, c'est de la magie en action.
So, I mentioned that there were people who could reach into books and pull things out. There's actually more of a spectrum. There are people who have enough power to reach in and create things and do it safely and with control, and they know what they're doing, sort of. You also have people who they have just enough magic to get into trouble. So they're reading, let's say, Twilight. And they get to the scene with the sparkling vampires. And there's just enough magic that they can reach, they touch something in the book. And basically they get bitten. They reach into the book and they feel the teeth and when this happens, they completely freak out because this is new. They don't know what's happening, but they've been bitten by a sparkly vampire. And a couple days later, they look like a disco ball. And we as fantasy writers, we keep coming up with new twists on vampires and werewolves and other monsters. And so the more we create as writers, the more readers are bringing those contagions into the world. So by the time we get to this book takes place basically now, we have all of these different subspecies of werewolves and vampires, and they're all given Latin names. I think the Stephanie Meyer vampires were Sanguinarius Meyeri. So we end up with all of these subspecies. And when Isaac, the protagonist, has to deal with a vampire, the first thing he's doing is studying and figuring out what book did you come from? Because depending on the book, you might be vulnerable to sunlight, or maybe the wooden stake would work, or maybe I just need to run away. It was a chance to talk about how we've just splintered into so many different subspecies.
Alors oui, j'ai mentionné donc que dans l'univers du livre, des gens peuvent plonger dans les livres et en sortir des choses. Dans les faits, c'est quand même un peu plus flou que ça, c'est un peu plus un spectre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont suffisamment de pouvoir pour plonger la main dans les livres à peu près en toute sécurité, en contrôlant à peu près ce qu'ils font, en sachant à peu près, en faisant ça de manière à peu près sûre. Puis il y a des gens qui ont juste assez de pouvoir pour s'attirer basiquement des ennuis. Alors imaginez que donc on a une personne comme ça qui est en train de lire au hasard, mettons Twilight, et il tombe sur la scène où il y a le vampire qui étincelle dans la lumière du soleil. Donc et là à ce moment-là, elle plonge la main par hasard et par erreur dans le livre et touche quelque chose. Et dans les faits, en fait, il se fait mordre. Parce qu'il va effleurer par exemple les crocs du vampire. La personne évidemment est complètement paniquée par ce qui vient de se passer, parce que c'est complètement nouveau, c'est complètement inattendu. Et le problème, c'est qu'en fait, elle s'est fait mordre et deux jours plus tard, elle ressemble effectivement à un vampire qui étincelle au soleil, un peu comme une boule à facettes disco. Et l'idée, c'est que les auteurs, en tant qu'auteurs, trouvent toujours de nouvelles façons de réécrire, réinventer les mythes des vampires, des loups-garous, etc. Et en fait, plus on en crée dans l'univers du livre, plus davantage de lecteurs peuvent entrer en contact avec ces espèces. En fait, davantage de contagions différentes, on peut ramener dans le monde réel. Et quand le premier volume commence, qui se passe à peu près à notre époque contemporaine, il y a déjà tout un tas de sous-espèces vampiriques, de loups-garous qui sont apparus dans le monde. Et on leur donne d'ailleurs des noms latins, comme dans la zoologie. Par exemple, les vampires de Stephanie Meyer de Twilight portent le nom de Sanguinarius Meyerii. Et quand Isaac, donc, qui est le protagoniste du livre, se trouve confronté à un vampire, la première chose qu'il fait, c'est qu'il l'étudie de manière à pouvoir déterminer. D'accord, mais toi, de quel livre tu sors? Parce que ça peut vouloir signifier, est-ce que ce vampire-là est vulnérable au soleil? Est-ce qu'il est vulnérable au puits en bois? Ou est-ce qu'il vaut mieux courir très très vite dans l'autre sens? Donc il y a pas mal. Donc le livre parle pas mal justement de ces différentes sous-espèces de vampires, de loups-garous, qui ont donné tout un tas de rameaux différents en fonction des œuvres de la littérature.
Jean-Laurent Del Socorro, comme vous le rappeliez tout à l'heure, dans vos romans, ils sont ancrés sur l'histoire. Mais parlons, et dans Boudicca, bon, on a discuté un petit peu de l'aspect magie onirique, en quelque sorte. En revanche, dans votre roman précédent, de Royaume de vent et de colère, là, la magie existe vraiment, alors qu'on est ancré dans une république dont je crois à peu près tous vos lecteurs ignoraient l'existence jusqu'à ce qu'ils vous lisent, qui est la République de Marseille en 1596. Bon, ignorez tout. Et, mais là, en même temps, c'est un monde un peu alternatif dans lequel la magie existe vraiment, puisqu'il y a les arbonniers. Alors peut-être pourriez-vous nous en parler.
Alors oui, dans Royaume de vent et de colère, c'était intégrer une magie, mais pareil, comme je voulais garder la part historique assez forte, je voulais une magie qu'on puisse expliquer, que tous les gens ne puissent pas utiliser comme ça au pied levé. Donc c'était des objets qui étaient rares et surtout c'était difficile à utiliser. Grosso modo, l'arbon est une pierre, on ne sait pas trop d'où elle vient. L'utiliser, ça vous contamine comme la radioactivité. Ça contamine les gens autour, pareil. Donc autant dire que faut vraiment en vouloir pour l'utiliser. Par contre, ça donne un pouvoir assez impressionnant. Donc l'idée, c'est au départ d'avoir effectivement une magie très contrôlée, pour pas effectivement que le roman bascule complètement dans un roman plus fantasy. Il y a aussi quelque chose d'intéressant par rapport à ça, c'est de se poser la question du SI, un peu uchronique justement comme vous le soulevez, c'est si ça existe, si c'est une ressource qui est puissante, qui va l'utiliser à ce moment-là? Et l'entité politique qui peut l'avoir le contrôle le plus aisément, c'est la religion. C'est pour ça que dans le récit, c'est la religion qui a la mainmise là-dessus, qui ne sait pas trop comment ça s'est utilisé, mais avec le voile un petit peu, l'enrobage, de dire bah, c'est mystique, c'est la foi, les gens y croient, et effectivement acceptent de se prêter au jeu, grosso modo de se détruire et de détruire accessoirement les gens qu'ils aiment autour d'eux en utilisant cette magie. Donc oui, c'est y a effectivement la magie dans le royaume. Après, il y a une forme de réalisme même dans son traitement, quand même.
Oui, absolument, parce que en fait, il y a des règles assez strictes d'utilisation.
Oui, complètement. C'est-à-dire déjà, elle se consume. C'est une pierre qui se consume comme un charbon, en fait, un arbonnier, une pierre d'arbon. Ça se consume. Il faut la contenir parce qu'en elle-même, si elle n'est pas utilisée comme la radioactivité, si vous ne l'isolez pas, ça contamine tout le monde dans cette pièce, par exemple. Donc, il y a, on se retrouve avec la question... Alors c'est un parallèle un peu, peut-être un peu maladroit justement avec le, aujourd'hui les technologies qu'on a et qu'on a parfois du mal à maîtriser, de se dire ben, on a quelque chose d'ultra puissant, c'est difficile de ne pas s'en servir parce que c'est extrêmement tentant. Après, le coût en vaut-il la peine? Parce que les utilisations qui sont faites dans le roman sont essentiellement militaires malheureusement.
Olivier Siddig, tout à l'heure vous avez fait allusion à un de vos romans dont, à ma grande honte, j'avoue, qu'il m'avait échappé, et vous nous avez, je crois, tous mis quelque peu en appétit en évoquant donc ce couple qui transporte un hermaphrodite dans un bocal au Moyen-Âge, et il se passe des événements extrêmement étranges. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Parce que là, il me semble qu'on est dans la magie aussi.
Je vous en dis volontiers un petit peu plus. Il y a un problème, c'est un problème ça, de suicitude. C'est que nous, Suisses, quand on est édité par des éditeurs suisses, on est extrêmement mal diffusé, distribué en France. À qui la faute? Je pense un peu aux deux. Donc, par exemple, le livre La Cire perdue, on ne le trouve pas ces jours ici, tandis que les livres qui ont été édités en France, ils seront là. Bon, c'est une histoire qui se situe en 1492, donc qui est dans un moment très, très précis, qui est en principe la fin du Moyen-Âge. Et tous les faits historiques sont avérés, etc. Je me suis documenté. Le vieux saltimbanque a hérité dans une partie de jeu de cartes d'une bonbonne dans laquelle il y a cet hermaphrodite qui est donc mort, qui est un adolescent mort et qui promène ensuite de foire en foire. Ça n'a rien de magique, ça. C'est juste déjà qu'on est un tout petit peu dans un monde fantastique. Le magique, il intervient très occasionnellement, surtout vers la fin du livre, quand il va falloir se séparer de l'hermaphrodite. Et c'est comme ça dans plusieurs de mes romans. Mais j'écris un autre roman qui s'appelle La Marche du Loup, qui se passe en l'an 1000, ça qui est vraiment presque de la fantaisie, entre fantaisie et fantastique, où là les choses sont magiques. L'héros est un petit garçon qui est élevé par les loups, qui se bat contre de nouveau un hermaphrodite, mais qui est un très méchant duc. Et là, par exemple, dans un moment, un des deux pleure pendant 10 ans et ça crée une rivière qui permet d'accéder au pays où est réfugié sa bien-aimée, si mes souvenirs sont exacts.
Il va falloir vraiment se plaindre quant à la distribution, parce que Olivier Siddig, là, nous donne envie de découvrir ces livres, on ne va pas pouvoir les lire. Ça, c'est un peu dommage quand même.
Alors, avec Internet, on peut tout trouver. Non, je pense qu'il faut peut-être se plaindre, et nous, Suisses, on devrait se plaindre, et vous, Français, vous devriez, comme vous avez peut-être l'occasion de changer le monde maintenant, j'en doute, vous devriez peut-être arriver dans une structure qui serait plus fédéraliste, telle que ça, c'est bien en Suisse, on est un pays fédéraliste. Où les choses circulent de manière moins cloisonnée. Peut-être.
Là, on est passé dans le domaine de la science-fiction et donc on a quitté la fantaisie. Alors, en parlant de science-fiction, Jim Hines, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a frappé dans Magie ex libris. Donc, le titre l'annonce et vous en avez parlé déjà. Donc, Isaac et tous les bibliomanciens ont donc ce pouvoir. Ce qui est très frappant, c'est, me semble-t-il, la première fois que je vois un magicien utiliser des instruments de science-fiction pour combattre le surnaturel. Qu'est-ce que vous en pensez?
Think Isaac is a geek, and yes, he's going to use fantasy and science fiction because that's what he reads. As I was developing this, you know, part of what allows someone to be a Libriomancer is their love of books. Isaac is one of us. You know, he loves fantasy, science fiction. He's got a Doctor Who TARDIS in his car. He wears a long coat because it makes him feel like the Highlander. He is that geek. And so he naturally is drawn to all of the science fiction ideas and toys as much as fantasy. There are other Libriomancers who have other specialties. There is one in the second book who is primarily a poet. And she uses poems in order to shape things around her. And it's more abstract magic, and Isaac doesn't get it. You know, he's, I can't get into the poems. How do you do this? Whereas she is probably, what's up with the dragons and the swords? This is weird. But it comes down to what are the books you love. Those are the things that you are most connected with and most likely to draw on. So Isaac, being the geek, he is drawing on fantasy and science fiction both, because there are wonderful toys in both sides of the genre.
Bien, en fait, Isaac est un geek, donc la fantasy, la science-fiction, c'est ce qu'il lit. Et donc c'est là-dedans qu'il va puiser. Quand je développais la série, une partie de ce qui faisait la magie de la bibliomancie, une partie qui permet d'ouvrir la porte, c'est l'amour pour les livres, l'amour pour les histoires. Et Isaac, tout simplement, c'est l'un de nous. Il aime la SF, il aime la fantasy. Dans sa voiture, il a un petit TARDIS du Doctor Who. Il porte un long impair parce que ça le fait penser à Duncan MacLeod dans Highlander. C'est ce genre de type. Donc il est attiré par la science-fiction et par la fantasy parce qu'il est attiré par les idées et par les jouets que proposent la science-fiction et la fantasy. Mais il y a d'autres possibilités de spécialité de bibliomancie. Par exemple, au début du deuxième livre, on a un autre bibliomancien qui est une jeune fille qui est plutôt une poète. Elle utilise les poèmes pour façonner les choses et elle fait appel à une magie qui est plutôt abstraite. Isaac, il ne comprend pas ça. Il n'arrive pas à entrer dans les poèmes. Il lui dit « Mais je ne comprends pas, j'arrive pas à rentrer dans ton truc. » De la même façon qu'elle, très probablement, lui dirait « c'est quoi ton histoire avec les dragons, les épées, c'est vraiment bizarre ton truc. » Mais voilà, ce qui représente la bibliomancie et ce qui nous unit tous, c'est l'amour des livres et c'est ce qui permet d'établir un lien avec eux et de puiser en eux. Et donc Isaac étant un geek, il aime la science-fiction et la fantasy parce qu'il y a des jouets merveilleux à puiser des deux côtés du genre.
Bien, je vois que le temps a très vite tourné. Il va falloir libérer dans les cinq minutes qui viennent. Donc, vous avez vu, je dirais en conclusion, qu'effectivement, la fantasy, c'est magique parce qu'on a tellement d'univers très différents, même si certains de nos auteurs se considèrent comme des marginaux de la fantasy. Mais en tout cas, je crois que ça nous a donné vraiment envie de découvrir tous ces univers. Et il nous reste qu'à remercier nos quatre auteurs ici présents.